Après des journées de pluie, j'avais peur hier soir parce que j'ai vu des animaux deux par deux dans le chemin. Eh bien, honnêtement, Lynn et Liz, parce qu'on connaît que Dieu fait pas d'erreur, on vous laisse partir. Mais c'est pas parce qu'on sait, c'est qu'on souhaite. Et vous allez nous manquer, honnêtement. Je sais l'église que Liz va assister, ben je crois. Et c'est très intéressant. C'est une église chinoise à Longueuil. Et j'étais là le mois de mai. Et elle serait le deuxième blanche. Oh, il y en a trois, oh, excuse. Alors, mais c'est une église de jeunes chinois. Et Dieu a l'œuvre dans cette église. D'un côté, c'est très intéressant, c'est pas dans mon message, mais je prends quelques moments. D'un côté de l'église, c'est pour les parents, les grands-parents, et c'est, je pense qu'ils prêchent en cantonais et traduisent en mandarin, ou vice-versa. Parce que les Chinois qui sont à Montréal, qui sont ici depuis longtemps, venaient de Hong Kong, donc ils parlaient cantonais, qui apparemment est pas de tout comme mandarin. Est-ce que c'est vrai, Langxiu? Moitié-moitié, ok. Alors, ça, c'est une partie de l'Église. L'autre partie de l'Église, ce sont les jeunes qui sont ici, mais deuxième, troisième génération, qui ont appris et l'anglais et le français. Alors, ils connaissent, ils sont capables de communiquer dans la langue des parents, mais ils préfèrent une autre langue. Alors, l'église où Sam donne une direction, c'est en anglais. Puis, encore une deuxième fois l'année passée, le mois de mai cette année, j'avais occasion d'assister le culte de cette église. Puis, donc, je sais que Liz, elle part pour une très, très bonne église et une expérience où elle va grandir avec ces gens-là. Puis Lynn, est-ce que tu seras dans l'église à Trois-Rivières? Donc, c'est là? Voilà. Alors, elle connaît l'église déjà à Trois-Rivières, qu'elle va fréquenter, une bonne église. Le pasteur Benoît Lavergne, c'était un de mes étudiants, quand on recule dans les archives là, de l'école biblique. Alors, on sait que vous serez entre bonnes mains, dans de bonnes églises, et on est content pour vous. Triste pour nous, mais content pour vous. Nous arrivons vers la fin de 1 Jean. J'oublie, je voulais vérifier la date qu'on a commencé l'étude, mais ça fait plusieurs mois. Janvier, ok, alors janvier qu'on a commencé, eh bien. Alors nous sommes rendus le mois de juin, nos excuses Barbara et moi, on a manqué un mois parmi vous. Pas, c'était, on avait des choses à faire, mais ça nous manquait aussi d'être avec vous, et on est content d'être retour. Alors, 1 Jean, si on avait un examen ce matin, mais il n'y en a pas, n'ayez pas peur, mais si on avait un examen, et je vous pose la question, qu'est-ce qu'on a appris de Jean dans cette lettre? Des choses qui viennent à l'esprit, vous avez entendu peut-être. Qu'est-ce qu'on a souligné, entre autres, des grandes lignes? Jésus. Oh, que c'est toujours une bonne réponse. Et, effectivement, c'est vrai, on va parler de lui encore ce matin. Quoi d'autre? 1 Jean. Oui. La vérité et le mensonge, ok? Le contraste. Dieu est amour, et ça se répète à travers cette lettre. Quoi d'autre? Lumière, ténèbres, et même effectivement, on a vu beaucoup de contrastes, ok, entre vérité, mensonge, lumière et ténèbres. Quoi d'autre? D'autres choses? Aimez-vous les uns les autres. Jean semble avoir une corde sur sa guitare. Hein, il jouait ça tout au long de l'évangile. Dieu est amour. Aimez-vous les uns les autres. On arrive dans l'épître, ça se répète encore, encore, encore. On dirait que c'est un message qu'il voulait communiquer. Et on croit aussi que l'Esprit de Dieu voulait communiquer parce qu'il a poussé Jean à écrire plus qu'une fois. Aimez-vous les uns les autres. d'autres thèmes, d'autres sujets dans cette lettre? OK. On parle les pères, les jeunes hommes et les petits-enfants. À quelques reprises, on voit que Jean, il s'adresse aux gens, les groupes différents dans l'Assemblée. Mais ça nous encourage parce que, espérant qu'on a parmi nous les pères dans la foi, les gens qui marchent avec le Seigneur depuis longtemps, des jeunes, puis on sait, on a des jeunes parmi nous, mais aussi les petits-enfants qui peut-être introduits dans la famille, puis sont en croissance, mais ils ont besoin d'encouragement. J'aime beaucoup l'image. La route vers le ciel, c'est pas une course. C'est un voyage, et il n'y a pas de prix pour ceux et celles qui arrivent en premier. C'est d'arriver. Et si un père dans la foi voit un petit enfant qui traîne la patte un peu, peut-être il y a des choses qu'il ne comprennent pas ou il est découragé, au lieu de courir, « Ah, mais je suis fort, mais moi... » Non, de même reculer et donner la main et aider ce jeune à marcher. Et ça, c'est un privilège que Dieu nous donne tous. Parce qu'on ne reste pas jeune enfant toujours, hein? Il y aura des autres derrière nous qui viennent de comprendre le salut en Jésus-Christ, qui vont suivre Jésus, mais qui auront besoin de votre encouragement. Donc, le message, c'est sans cesse. Des générations dans le Seigneur. Mais bravo, vous avez passé l'examen. Tournez à 1 Jean chapitre 5, si vous avez vos bibles, sinon les versets seront projetés sur le mur. Puis est-ce que c'est moi qui contrôle? Comment ça marche? On verra. Les flèches? Yes! Et voilà, c'est Jésus. comme Gab vient de dire, c'est Jésus la vedette. Et j'aime beaucoup, j'avais demandé à Laurence Aidé, en anglais on dit « It's all about Jesus ». Mais ça se traduit mal. Ça, j'ai pas une traduction mot à mot, mais c'est Jésus la vedette. Je pense que ça le dit. C'est lui et « It's not about me ». C'est pas nous. Et elle m'a suggéré, nous on n'est que les figurants. Ça met une perspective qui est tout à fait biblique. Ça va nous aider, j'espère, à vivre notre vie ici-bas de bonne façon, pas cherchant à avoir la lumière sur nous, les spots, mais qu'on soit en arrière, dans les coulisses, pour laisser la place à Jésus. Si Jésus décide de nous emmener avec lui à une responsabilité quelconque, puis on se trouve là un peu plus visible, au moins on est là avec lui. Pas parce qu'on est allé, on se pète les bretelles, puis me voici le plus important. Non. Parce que ça tourne autour de lui, pas autour de moi. On peut vivre le nombrisme, hein? C'est un mot que j'ai appris en français. Je pense que ça dit bien. Ça tourne autour de moi. Et c'est pas ça. Alors, là, avec cette notion, Jésus est la vedette. J'aimerais qu'on regarde, on est dans les versets 6 à 12 du chapitre 5. Puis la semaine prochaine, j'ai le privilège de terminer le livre. Alors, la semaine prochaine, on verra encore pour les versets 13 jusqu'à 21 pour conclure l'étude de cet épître. Mais voilà les versets 6 à 9 et j'aimerais qu'on lise ensemble. Okay? Vous êtes capable de voir? Alors, lisons ensemble, s'il vous plaît. Celui qui est venu par l'eau et par le sang, c'est bien Jésus-Christ. Il n'est pas passé seulement par l'eau du baptême, mais outre le baptême, il est passé par la mort en versant son sang. Et c'est l'Esprit qui lui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Ainsi, il y a trois témoins, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Intéressant comme passage. Alors, on recule, on va commencer ici au début du verset 6. Celui qui est venu par l'eau et par le sang, c'est bien Jésus. Alors, Jésus est venu par l'eau. C'est intéressant. Quand on lit les commentaires, ils ont toutes sortes d'idées, hein? Mais je pense que ce qui m'encourage et me décourage en même temps, c'est qu'on a une variété d'opinions. Quand on ouvre la Bible, dit, oh, c'est ça, puis on lit un autre commentateur, puis il dit, oh, non, c'est pas ça du tout. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le Bill Semmer, donc on a le texte Semmer devant nous, eux, ils ont donné leur interprétation. Parce que si on voit dans d'autres textes en français, ça dit pas l'eau du baptême. Du baptême a été ajouté. Je suis d'accord que c'est probablement la meilleure façon d'interpréter quand Jean dit que Jésus est passé, pas seulement par l'eau. Regardons, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela? Vraiment, le baptême de Jésus, donc l'eau du baptême, a inauguré son ministère terrestre. Êtes-vous d'accord? Alors, Jean, il baptise. Jean-Baptiste et les gens sortent de la ville, ils vont dans le désert, mais c'est pas le désert, mais au port de le Jourdain, et ils sont baptisés par Jean. Puis tout un réveil qui se fait en Israël. Alors Jésus, une bonne foi, se présente là, puis Jean-Baptiste voit arriver Jésus, puis il connaissait son cousin, hein, en plus. Alors, il le connaissait, et Jésus vient, il se présente pour être baptisé, puis Jean ne voulait même pas. Il dit, non, c'est toi qui devrais me baptiser, pas moi, toi. Et Jésus dit, non, laisse faire. Alors, là, regarde bien le contexte ou les versets, Matthieu 3, 14 à 17. Peut-être quelqu'un pourrait nous lire à haute voix, s'il vous plaît.
Il lui disait, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. C'est toi qui viens à moi. Jésus lui a répondu, accepte pour le moment qu'il en soit ainsi. Car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que nous voulons demeurer. Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Aussitôt comme on avait été baptisé, Jésus sortit. Alors, le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre de la forme d'une colombe et venir sur lui. En même temps, une voix vint dans le ciel qui entendre ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui prêche toute ma joie.
Alors, Jésus est venu par l'eau. Il est venu par l'eau et c'était cette occasion, ce qui marque le début de son ministère terrestre, qui va durer 3 ans, 3 ans et demi à peu près, on verra Jésus en train d'accomplir la volonté de son Père ici sur la terre. On a 4 évangiles qui nous racontent cette histoire. Quand vous avez des amis qui, peut-être, ils connaissent pas le Seigneur Jésus, qui montrent un certain intérêt, j'aimerais vous encourager, de les encourager à ouvrir la Bible aux évangiles. Mais comme vous savez plusieurs, au moins, Barbara et moi, on fait partie d'une chorale communautaire. On est là depuis 5 ans, puis petit à petit, Dieu permet des bonnes conversations. Et ce sont les conversations avec des gens qui ont presque aucune connaissance de Jésus. Bien élevé dans l'église, exemple, mercredi cette semaine, on a été invité pour un dîner, un couple de la chorale, un autre couple ami de, donc on était 3 autour de la table, puis pendant le repas, on parle, puis on parle de Marie, puis on dit, dis, mais vous aimez pas Marie, hein? Ben non. On explique un peu nos compréhensions. Puis, dans la conversation, je dis, ben, même Marie, elle s'est connue comme ayant besoin d'un sauveur. L'ange annonce la venue. Et quand Marie entend cette annonce qu'elle sera enceinte, puis sera Jésus, son bébé, elle chante. On appelle la Magnificat, mais dans ce chant, elle dit, mais Dieu, mon sauveur. Alors, ces deux autres couples, ils nous regardent, ils écoutent, mais, Puis, là, j'aime beaucoup la suite. Je dis, mais même plus tard, les autres enfants de Marie, aimaient pas Jésus trop. Puis, le monsieur en face de moi, il s'appelle Michel, je le connais bien. J'aurais aimé avoir une caméra. Le regarde sur son visage, dit les autres enfants de Marie, puis il me regardait, il dit, quoi? Les autres enfants de Marie, il dit, ben oui, c'est dans les évangiles, on avait parlé des évangiles. Ben voyons, il dit, j'ai 70 ans, j'ai jamais de ma vie entendu ça. Mais il faut lire les évangiles. Puis il dit, j'ai acheté un Bible dernièrement. OK, Michel, commence à lire. Mais voyez-vous que le message de ce Jésus qui arrive et qui a un ministère à faire, c'est, ça tourne autour de lui, c'est lui la vedette. Et quand on lit les évangiles, histoire après histoire, met en évidence la personne de Jésus. Et ça a commencé, ce ministère, par l'eau du baptême, là où il a été baptisé par Jean. Mais le verset continue à dire, l'eau est par le sang, il est passé par le mort en versant son sang. Ça prend une surprise, hein? Si vous connaissez l'histoire de Jésus, dans un sens, la croix et la mort de Jésus ont complété ou achevé son ministère terrestre. Alors, début, c'était inauguré par l'eau de baptême. Il se présente, les gens commencent à connaître. C'est qui Jésus? Ils vont pas aimer Jésus beaucoup, hein? Mais quand on arrive à la fin de sa vie terrestre, et on marque bien sa vie terrestre parce que il y avait une vie éternelle puis ça continue après. Mais là, on voit la croix. J'aimerais juste souligner trois petits textes tirés de Marc 15 et 16. Je pense que j'ai oublié de mettre les versets, mais vous allez voir, ils sont tirés de ces deux chapitres. Fin de l'évangile de Marc. Jésus poussa un grand cri, expira. Et alors, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. Vous connaissez cette partie de l'histoire? Imaginons. Plusieurs épaisseurs, les peaux d'animal, les tissus, plusieurs épaisseurs, peut-être 5, 6, 7 épaisseurs de tissus, et déchirés. Maintenant, si c'est un complot d'hommes, bon, peut-être on va arriver la nuit avant, puis on va couper en bas, commencer pour que, au bon moment, deux hommes y prennent, puis on déchire. Mais non, c'est pas comme ça que ça a commencé. De haut en bas. Et quelle est la signification de cet événement? Que le voile soit déchiré, qu'est-ce que ça représente? Pourquoi une telle chose? OK, le voile, c'était entre quoi et quoi? Vous connaissez. Mais Dieu et l'homme, oui, dans un sens, certainement, mais des locaux dans le temple, c'était quoi? Le lieu saint et le lieu très saint. Derrière le voile, qui avait l'accès? Un homme, le souverain sacrificateur, une fois par année, seulement. Et même la tradition, au moins, nous dit qu'il attachait une corde à son pied, parce que si jamais il entre pour offrir un sacrifice et Dieu n'accepte pas le sacrifice, on est mal pris. Parce qu'il va mourir dans la présence de Dieu, mais qui va entrer pour le sortir? Personne. Pas moi, au moins. Mais là, d'un coup, on déchire, Dieu déchire le voile qui a séparé l'homme de lui-même. Et ça donne un accès libre. Puis aujourd'hui, ce matin, plusieurs ont prié. Vous priez, j'espère, dans votre vie quotidienne. On passe par qui? Par Jésus. Pas besoin de quelqu'un d'autre. Pas besoin d'aller demander à quelqu'un qui pourrait aller derrière le voile parce que le voile n'est plus là. Alors là, c'est un indice par le sang de Jésus, un événement extraordinaire. Mais on le voit dans une phrase. Le rideau du temple se déchira en deux. Et une autre chose, encore dans, ici encore Marc chapitre 15, voyant de quelle manière il était mort, l'officier romain qui se tenait en face de Jésus dit, cet homme était vraiment fils de Dieu. Maintenant, un païen, dans le sens large du mot, mais un romain, un soldat qui était là à sa poste, c'était son tour, probablement pas parce qu'il dit, est-ce que je pourrais être là près de la croix de Jésus? Mais il a remarqué des événements qui se sont passés ces 3 heures que Jésus est sur la croix. Puis il voit ces choses arriver. C'est pas longtemps après la mort de Jésus. Puis sa réaction, cet homme était vraiment fils de Dieu. Comment est-ce qu'il l'a su? Oui, certainement, Francis dit le Saint-Esprit, Dieu l'a révélé. Et là, c'est le début. de témoignages qu'on va entendre. Les gens qui vont voir Jésus, celui qui est mort à la croix, puis dit, hey, c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Le troisième témoin, c'est tiré du chapitre 16. Ça, c'est trois jours plus tard. Mais le jeune homme, mais d'autres textes nous disent, un ange, lui, leur dit, ce sont les dames qui sont arrivées pour prendre soin le corps de Jésus, n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est plus ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Vous savez, la mort, le sang de Jésus versé pour nous, sans la résurrection, ça donne quoi? Rien. Parce qu'il y a beaucoup de sacrifices, beaucoup de sang qui a été versé pour couvrir des péchés pendant l'histoire. Mais Jésus seul, qui a donné son sang, qui a donné sa vie librement, trois jours plus tard, se lève, il sort de tombe, et là, la puissance démontrée. Premièrement, que Dieu avait agréé aussi le sacrifice, accepté la punition du péché, c'est couvert, c'est fini. Alors là, il est ressuscité, il n'est plus ici. Quel témoignage! Oh, qu'on avait, on aurait pu prendre photo, le tombe vide. Ben, on pourra avoir les représentations, mais il n'est plus là. Il n'est plus là, c'est Jésus. Alors, Jésus est venu par le sang, il est venu par l'eau, commencer son ministère, il termine son ministère terrestre par, en offrant son, versant son sang. Il y a un troisième témoin. Jésus a été appuyé par l'Esprit, et c'est l'Esprit qui lui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Quel Esprit? L'Esprit de Dieu. OK? On parle du Père, on parle du Fils, et on parle du Saint-Esprit. Alors, j'aime beaucoup ce qu'on voit dans les Écritures. Premièrement, on suggère que le Saint-Esprit est le vrai auteur de la Bible. OK? Parce que c'est lui qui a dirigé les auteurs humains pour écrire ce qu'ils ont écrit. C'est lui qui a même protégé d'erreurs. Alors, quand Habacuc, si on prend un exemple, quand Habacuc a écrit sur le jugement à venir pour Judas, c'est pas juste parce qu'un matin, Habacuc se lève et dit, « Ah, je pense que je vais écrire quelque chose pour... » Non, non, non. C'était l'Esprit de Dieu qui a dirigé Habacuc. Alors, quand Habacuc a terminé les quatre petits chapitres, je pense qu'il y en a quatre, les quatre petits chapitres de sa prophétie, Dieu l'avait dirigé, l'Esprit de Dieu était à l'œuvre en lui, puis on a une histoire, une lettre sans erreur, sans faute, parce que l'Esprit a dirigé. Alors, lui, il est l'auteur des Écritures. Regarde bien quelques versets, on aurait pu mettre des pages et des pages, mais vous connaissez Ésaïe 53, quelqu'un pourrait nous lire ces deux versets?
Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance, bien que toi, Dieu, tu aies livré ta vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel, car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur, le juste, les déclarera juste et se chargera de leur faute.
Intéressant, le mot, le nom, le juste, avec lettre majuscule, c'est une référence. On ne sait pas encore c'est Jésus. On sait c'est celui loin de Dieu. On va connaître le nom Jésus quand on arrive dans les évangiles. Mais on parle de Jésus. Prophétie écrite entre 7 et 800 ans avant que Jésus arrive sur la terre, mais on parle de lui. Et on voit que l'Esprit de Dieu, en dirigeant les auteurs, Ésaïe entre autres, nous décrit qui est ce Jésus qui va venir un jour. Alors, cette notion des prophètes, mais aussi le ministère du Saint-Esprit dans la vie de Jésus, ça m'intrigue. Je lis l'histoire de Jésus, puis je vois que il œuvrait, mais dans la puissance du Saint-Esprit. On parle de la Trinité, puis honnêtement, c'est une doctrine qui est, c'est difficile à comprendre. J'accepte par la foi que c'est vrai. Essaye d'expliquer la Trinité, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tous les trois égaux, tous les trois des personnes individuelles, mais en même temps, c'est pas droit Dieu, c'est un Dieu. Alors, si vous avez compris comment l'expliquer, venez me voir, je vais vous écouter. Et par la foi, j'accepte que c'est vrai. Et par la foi, j'accepte que quand on lit, et vous allez voir, c'est dans Jean chapitre 1 et Luc chapitre 4, quelques passages qui décrivent le ministère de Jésus, mais le ministère du Saint-Esprit envers Jésus. Alors, imaginons, Jésus a passé déjà par là. Il a su c'est quoi vivre sous la direction du Saint-Esprit. Et donc pour nous aujourd'hui, on a le même privilège. L'Esprit veut nous accompagner, veut nous guider, comme il a fait pour Jésus. Regarde premièrement Jean chapitre 1. Jean-Baptiste rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, se poser sur lui. Je ne savais pas que c'était lui. Intéressant, Jean y apprend, sous le coup. Je savais pas que c'était lui, mais Dieu, qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, m'avait dit, tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme. C'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. Alors cela, je l'ai vu de mes yeux, je l'atteste solennellement, cet homme est le Fils de Dieu. Voyez-vous l'importance de venue du Saint-Esprit lors du baptême de Jésus? C'était même pour Jean un signe. C'est lui, c'est lui. Jean savait que quelqu'un viendrait. Mais là, la venue de l'Esprit descend en forme d'un oiseau, une colombe. Mais c'était un moment révélateur pour pour Jean-Baptiste. Ici, tiré de Luc chapitre 4, Jésus, rempli de l'Esprit Saint. Cherchez-vous à être rempli du Saint-Esprit? C'est commandé même dans la parole. C'est à nous, hein, le corps de Christ, d'être rempli de l'Esprit pour qu'il nous dirige. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il revint du Jourdain et le Saint-Esprit le conduisit dans le désert où il fut tenté par le diable durant 40 jours. Je saute plusieurs versets. Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation se répandit dans toute la région. Jésus, il dit un peu plus loin dans les évangiles, il ne fait rien sans la direction de Dieu. Mais Jésus est Dieu. Mais Jésus dépendait la puissance de l'Esprit pour diriger sa vie. J'apprécie beaucoup le fait que notre souverain sacrificateur, ça c'est Jésus, mais Jésus a connu une vie sur terre dirigée par le Saint-Esprit. Ce que Dieu veut pour nous tous. Wow! Hey, c'est fantastique, là! Alors, on recule juste un instant, il est appuyé par l'Esprit. Alors, on voit, Jésus est venu par l'eau, est venu par le sang, puis il est appuyé par l'Esprit. Ce qui est intéressant, on avait vu, il y avait trois témoins, et les trois sont d'accord, à la fin de verset 9, verset 8 plutôt, c'est très intéressant, et je m'excuse, c'est en Deutéronome, j'ai oublié de marquer la référence, mais dans le Deutéronome, il dit que selon la loi, c'était important d'avoir trois témoins pour confirmer une chose. Il y en a trois. L'eau de baptême, le sang de Jésus, le Saint-Esprit. Alors on dit de nouveau, c'est Jésus la vedette. On est au milieu du cinquième chapitre, chapitre 1, 2, 3 et 4, toujours Jésus, en évidence. Alors là maintenant on a des versets 10 à 12, mais je pense que c'est assez, mais ça, les lettres un peu plus proches, mais je pense que c'est lisible, oui? En arrière, vous pouvez le voir? OK. Lisons ensemble ces versets. Nous acceptons le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu est bien supérieur, et ce témoignage, c'est celui que Dieu rend à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur. Puisqu'il ne croit pas le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et qu'affirme ce témoignage? Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. En Jean 5, 10 à 12. Sachant toujours Jésus est la vedette. Intéressant que Jésus reçoit un témoignage de son Père. On partage des témoignages parfois, hein? On voit même un souper pour honorer quelqu'un, termine un travail, ils ont été à la poste 40 ans. Alors les gens vont donner des témoignages, ils vont parler, oh mais il a fait ou elle a fait ci ou ça, puis on apprécie beaucoup ce que cette personne a fait. Mais c'est encourageant quand quelqu'un donne témoignage à notre sujet, hein? C'est pas, on veut pas la tête trop gonflée parce qu'il faut sortir par la porte plus tard, mais c'est encourageant quand même quand quelqu'un peut donner témoignage. Peut-être on a fait, moi je dirais, grâce à Dieu, on a accompli quelque chose pour sa gloire, mais même on apprécie ça. T'entends quelqu'un dire, mais moi je veux remercier un tel pour ce qu'ils ont fait. On peut toujours refléter la gloire vers Dieu, mais cette notion d'avoir des gens qui donnent un témoignage. Alors ici, on a Dieu le Père qui donne un témoignage au sujet de son Fils. J'aime cette collaboration entre le Père, le Fils, l'Esprit, et on le voit dans ces versets, que c'est effectivement c'est notre Dieu. Trois expressions, mais notre Dieu. Alors, quel est le témoignage? Le début, les trois petits points, ce qu'on a vu juste avant, même on peut reculer puis le voir, oh, juste là. Nous acceptons le témoignage des hommes. Et c'est vrai, hein? Si quelqu'un donne un témoignage sur un sujet quelconque, à moins qu'on sait c'est vraiment un mensonge, là, on l'accepte. Mais le témoignage de Dieu est bien supérieur et qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi son témoignage au sujet de son Fils? Premièrement, on va prendre un exemple. On va prendre le message que Pierre a prêché chez Corneille. Si vous ne connaissez pas cette histoire, levez la main. Je vais juste avoir une idée. OK, c'est dans Acte 10. Corneille, c'est un païen, non-juif, mais qui était très croyant. Je pense que ça décrit beaucoup de gens au Québec aujourd'hui, hein? Des gens qui sont, ils sont pas encore sauvés, d'utiliser le mot qu'on, nous on utilise, mais ils sont croyants, ils ont une certaine foi. Mais ça, c'était, Corneille. Et Pierre, un bon juif, il dit, il avait jamais même pas mangé des choses non cachères. Un vrai, vrai bon juif. Mais il reçoit une vision de Dieu, il faut que tu fasses telle chose. Puis dans la vision, il voit descendre un bon jambon, un sandwich au jambon, du bacon, des choses que interdit aux Juifs. Et j'exagère un peu, mais... Et il entend un message, une voix qui dit, mais mangez. Pierre dit, oh bon non, il n'y a pas de question. Toute ma vie, je ne mange pas ces choses. Trois fois, la vision revient. Après la troisième fois, toc, 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 à la porte, des gens qui disent, ben, on a été envoyé par notre boss, Corneille, il veut te voir. Et Corneille, un non-juif, demande audience avec Pierre. Alors Pierre arrive. Et mon Pierre, là, que c'était dur pour lui. Même d'entrer par la porte de cet homme. Et là, c'est tellement loin de notre expérience. Je ne sais pas, j'essaie de même imaginer quelque chose, mais en tout cas, c'était dur pour lui. Mais regarde maintenant ce qu'il dit. Je vais lire et noter où Dieu se trouve dans l'histoire. Parce qu'on parle le témoignage du Père, de Dieu le Père envers Jésus. Dieu a oint Jésus de Nazareth. Alors voyez-vous, ça a commencé par le Père. C'est le Père qui a oint Jésus. En répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Voilà notre Trinité à l'œuvre encore. Celui-ci a parcouru le pays en faisant de bien, guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec Jésus. Nous sommes les témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, où ils l'ont mis à mort en le clouant à la croix. Mais Dieu, le Père, l'a ramené à la vie du troisième jour et lui a donné de se montrer vivant, non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait lui-même choisi d'avance, c'est-à-dire à nous. Pierre, il parle des disciples. Et nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif et de proclamer ce que c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. Voyez-vous le témoignage de Dieu, le Père, envers Jésus? Juste cet exemple, un petit message qui dure quelques minutes, que Pierre prêche, mais on met en évidence le soutien de Dieu, le Père, envers son fils Jésus. Le Père élevait Jésus devant les autres. Pierre aussi, dans ce contexte, a dit, mais je ne devrais pas être ici. Sauf que Dieu m'a montré que je ne peux plus faire le favoritisme. Je suis content. Parce que si c'était pas ça, je serais pas ici ce matin. Parce que j'étais aussi un païen, un non-juif. Mais j'avais besoin de Jésus comme il faut. Alors là, le témoignage. Mais il y a, mais on peut ajouter à cela, le témoignage du Père. Pensez un peu l'histoire de Jésus. Ce que vous connaissez. Et vous le connaissez bien. Par Jésus, on parle du Père maintenant, il nous donne la vie éternelle. Êtes-vous d'accord avec ça? Que par Jésus, le Père nous donne la vie éternelle? Et notez bien, c'est parce qu'il nous a donné son Fils. C'est pas juste, bon, une bonne idée venant de Dieu, dans le ciel quelque part, qui dit, oh, ok, je vais donner la vie éternelle aux êtres humains. Pour donner la vie éternelle aux êtres humains, il fallait donner son Fils. J'ai pensé ce matin que pendant le temps de louange, dans un sens, le fait des pères, c'est toute une célébration pour Dieu le Père. Il y avait un Fils unique, le Père céleste. Il a donné ce Fils unique. Il a même vécu une séparation. 30 quelques années de séparation où Jésus est ici par terre, mais quelques heures sur le croix, il a vécu une séparation que peut-être l'éternité, on va jamais comprendre ce que ça représentait pour le Père de tourner son dos à son Fils. Et cela pour nous. Alors, la fête des Pères, ce matin, on devrait souhaiter bonne fête des Pères à notre Père céleste pour ce qu'il a fait pour nous. Et si nous avons son Fils et nous avons la vie. Quelques versets, vous connaissez, vous êtes capable de dire par cœur. Lisons ensemble. C'est Jean 3, 16 à 18. Ensemble. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Wow! Aussi simple et aussi profond que ça. Et le suite, c'est Jean 5, 24, un autre verset qui répète quasiment la même chose. Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé, possède dès à présent la vie éternelle et ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. Wow! Vous avez passé votre foi en Jésus-Christ pour le salut? Dès à présent, dès ce moment-là, moi c'était 72, il y a longtemps, dès ce moment, un après-midi, un mercredi après-midi, j'ai placé ma foi, ma confiance en Jésus pour me sauver, dès ce moment-là, j'avais la vie éternelle. Pas parce que j'étais quelqu'un d'important, au contraire, un petit gars. Mais j'avais besoin d'un sauveur et Dieu m'a ouvert les yeux pour voir le salut en Jésus. Alors ça, c'est le témoignage du Père. Mais j'aime beaucoup aussi la suite de ce passage parce que le point Jésus produit en nous un témoin. Il y a un témoin à l'intérieur de moi, à l'intérieur de nous tous qui connaissons Jésus-Christ. Jean, ça fait depuis janvier. Merci Louis, maintenant je ne vais pas oublier quand on a commencé. Mais on a vu à travers ces 5 chapitres, 1 Jean, qu'il veut parler des évidences qui nous donnent la confiance que nous sommes des enfants de Dieu. Comment savoir? Est-ce que c'est déjà arrivé? Poser cette question. Sommes-nous vraiment croyants? Est-ce que je suis vraiment croyant? Est-ce que je suis un vrai chrétien? Est-ce que j'ai vraiment mis ma foi en Jésus? Est-ce que c'est... Levez la main si vous avez déjà lutté avec ça. Pas sûr. Les doutes. Hey, mon ami, je peux vous dire, là, quand j'étais là, ma jeunesse, pendant les années secondaires, l'école secondaire, mais j'étais pas encore sauvé. Alors, j'avais raison de douter, mais je m'en souviens des fois, le soir dans mon lit, mais, oh, est-ce que je suis sauvé? Parents, chrétiens, pères, pasteurs de l'église évangélique, connaissaient la parole de Dieu, mais c'était dans ma tête, ça tournait. Je peux vous dire que le jour, là, en 72, que le Seigneur a ouvert mes yeux pour voir Jésus, mon sauveur, fini. Plus de doute. Parce qu'il m'a donné cette confiance. Mais là, c'est Jean. Mais j'aimerais, même si je vole le message de la semaine prochaine, il faut revenir quand même. Verset 13, je vous écris cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Pourquoi 1 Jean? Et voilà. Pour qu'on sache qu'on a la vie éternelle. Lisons, vous voyez les deux références, Romains 8 et Galates 4. Ah, c'est formidable. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non. Vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous les fils adoptifs de Dieu. Amen. Wow! Non, pas trop impressionné ce matin. Vous devrez être impressionné. Vous êtes les enfants adoptifs de Dieu. Car c'est par cet Esprit que nous crions, dis ça ensemble avec moi, Abba! C'est-à-dire Père. C'est le mot Papa. Il est notre Papa. L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Oh, que c'est précieux! Puis la suite, Galates 4, c'est presque la même chose. Puisque vous êtes bien ses enfants, ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mes fils, et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis. Grâce à Dieu. Oh, qu'on peut dire n'importe quand, Abba, Papa, au secours, Papa, j'ai besoin de... Et j'espère que c'est un réflexe de vos cœurs, de crier Abba, il est votre Père, grâce à Jésus. Amen, yes, là ça se réveille, c'est bien. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas le témoignage que Dieu rend à son Fils. Alors, le témoin à l'intérieur de nous. Soyez encouragés ce matin. 1 Jean n'était pas écrit pour nous décourager, pour nous donner un « Oh non, je suis pas capable, je suis pas... » Non, c'est pas ça du tout. La lettre d'un Jean, c'est pour nous encourager. Et je peux dire à la lumière des versets 6 à 12 ce matin, mais à la lumière de toute la lettre d'un Jean, nous voyons que le salut est une œuvre divine du début jusqu'à la fin. Avez-vous assez de foi pour être sauvé? Non. Dans le sens, je vais expliquer. Lui a dit yes. Oui, parce que Dieu œuvre dans mon cœur. Mais vous n'avez pas assez de foi pour croire et d'être sauvé? Pas en vous-même? Je m'excuse. Vous pensez avoir une grande foi, mais c'est pas assez grande. Mais laisse-moi vous dire une chose. La parole me montre, un Jean nous montre que Dieu a fait quelque chose qu'on pouvait jamais faire. Et nous donne comme don, comme cadeau, la vie. La vie éternelle. Et ça commence pas après la mort, ça a commencé le jour de notre salut. Nous avons une nouvelle vie ce matin. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de problème? Oh non. Est-ce que ça veut dire que notre vie sera mieux que notre voisin qui ne connaît pas Jésus?
Non.
Non. Non. Même je pense, je regarde nos cul-de-sac chez nous, probablement, Barbara et moi, et on est le moins fortuné de toute la gang. Pourtant, on est bien. Mais non, mais nos voisins, ils ont beaucoup plus d'argent, des chars qui sont plus beaux que... Non, c'est pas vrai. Maintenant, on a un beau char maintenant. Mais non, mais honnêtement, là, on pense parfois, oh oui, j'ai mis ma foi en Jésus, alors maintenant, la prospérité, juste, non. Peut-être même le chemin sera rocailleux. Il y a un des vieux chants de l'Église qui parlait de ça. Parfois, le chemin est rocailleux. Ça fait mal. On tombe. On a des blessures. Non, on n'est pas exempté de la vie. Mais laisse-moi vous dire une chose. Par le salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ, ça vaut la peine, le voyage, parce que ça va nous emmener un lieu éternel. Nous serons dans la présence de Jésus, de son Père, l'Esprit avec nous, pour l'éternité. Francis Chan, quelques-uns vous connaissez au moins cet auteur, il ne prêche pas en français. Mais, il prêchait une fois, puis il y avait une corde qui faisait le tour de le bâtiment, parce que c'était immense, hein, où il faisait culte. Une corde blanche, puis il y avait un bout à peu près comme ça dans sa main qui était rouge. Le reste est blanc. Puis ça fait tout. Ben, plusieurs, probablement centaines de pieds de corde. Alors il est en avant, puis il joue avec la corde, puis on voit le petit bout rouge, puis il dit c'est fou, hein? L'éternité et la vie ici. Il dit, le bout ici, quelques pouces, des pieds, et il dit, on met tout un effort pour améliorer les moments de cette petite distance, puis on oublie souvent tout le reste, qui va durer éternellement. Mais dans le message, c'était un défi d'avoir un regard qui est juste. Peut-être aller voir l'optométriste, puis un examen de vue pour être capable de voir les choses comme Dieu les voit. Et on a besoin qu'il nous aide, parce que quand on voit les choses ici-bas, par terre, là, parfois, on est tellement découragé qu'on aimerait juste... Mais le petit bout, 62, bientôt 63. Mais comparer 63 ans à l'éternité, il n'y a pas de comparaison. Louis, 70, bientôt. Bientôt 71. Je pense, Marguerite, avec nous ce matin, elle serait la vedette. Mais 80, 81, 100 ans, comparé à l'éternité, oh non. Et je pense que si Jean pouvait être ici ce matin, il dirait, confiez-vous au Seigneur. Parce que oui, la vie est dure. Jean était en exil. Il pouvait parler de dureté de vie, là. Il était exilé. Il a terminé sa vie seul. Mais il avait une vue vraiment éternelle. C'est lui le vedette. Nous, on n'est que les figurants. Donc, on termine rapidement avec trois suggestions. Premièrement, révisons son histoire, l'histoire de Jésus. L'année passée, pendant plusieurs mois, ma lecture biblique, à chaque jour que je lisais, c'était dans les évangiles. Je terminais Jean, je recommençais par Matthieu. Je lisais les évangiles, pendant 7-8 mois au moins. Et c'était fascinant. On commence à anticiper ce que Jésus a dit dans une telle histoire. On sait la fin d'une telle parabole, parce qu'on passe du temps avec. Alors, révisons son histoire, mais avec trois choses en vue. Premièrement, afin d'être encore bouleversé par qui il est. Est-ce que, quand vous pensez à Jésus, est-ce que vous êtes un peu bouche-bée? Parce que sinon, vous ne serez pas tenté trop de parler de lui. Soyons émerveillés par qui il est. Le Fils de Dieu, le Dieu éternel qui est venu passer des années ici sur la terre, entre autres pour nous montrer le Père et aussi nous donner la vie. Mais soyons bouleversés par ce qu'il est, sa personne. Deuxième chose, pour que nous soyons émerveillés de nouveau par la simplicité de l'Évangile. Il est venu proclamer un message, il est venu donner sa vie pour offrir aux êtres humains l'Évangile. La bonne nouvelle. On a besoin de cette bonne nouvelle tous les jours. C'est pas un message qu'on entend une fois, qu'on accepte par la foi une fois, puis là on tourne la page, puis on est en route vers le ciel, on a notre police d'assurance dans le poche, let's go. Non, on a besoin de la simplicité de l'Évangile à tous les jours pour nos propres vies. Avez-vous encore la lutte avec le péché dans votre vie? Non? Oh oui? Oh, quelques-uns au moins. Mais si oui, vous avez besoin encore de l'Évangile. Christ est mort, ressuscité pour nous. Et la troisième chose, révisons son histoire, puis soyons prêts à parler de la vedette de l'histoire avec les gens dans nos vies. Avez-vous des gens dans votre vie qui ont besoin de connaître Jésus? Sûrement. Sûrement. Mais ça n'arrive pas par osmose. OK? Je ne peux pas donner un bib, mais ça doit sous le laurier et le lendemain matin, vous allez vous réveiller puis vous... Non. Ils vont connaître Jésus parce que vous parlez de Jésus. Il faut parler de Jésus, il faut être à l'aise, connaître son histoire. Alors là, Jésus est la vedette, mais il faut qu'on met un effort pour garder Jésus là. Et nous, les figurants, en arrière, notre petit flashlight pour illuminer la personne de Jésus. Prions. Seigneur, merci pour Jésus. Son histoire nous étonne qu'il était prêt à venir, sachant qu'il devait laisser de côté, sachant déjà ce qu'il devrait vivre ici. Connaissant par quelle mort même il serait obligé de passer pour nous donner le salut, il l'a fait. Merci pour notre Sauveur Jésus. Et Seigneur, merci que tu nous donnes ce privilège, premièrement de le connaître, mais aussi de parler de lui avec nos amis. Parce que tu veux sauver encore les gens ici à Québec, ici dans la province, tu veux sauver les gens de ce monde. Alors Seigneur, aide-nous à être si impressionnés par notre Sauveur, que ce serait juste naturel qu'on parle de lui avec nos amis. Et merci Seigneur que tu nous donnes le privilège. Oui, on n'est que des figurants, mais tu nous as invités à participer dans cette grande histoire, et on te remercie au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon.